Le débat africain. Alain Foucault.
La stratégie est à chaque fois la même. Arrivés au terme de leur mandat, ils changent les règles du jeu en modifiant la constitution pour prolonger leur législature. Une pratique qui fait florès en Afrique. En quelques mois, pas moins de 4 pays se sont lancés dans cet exercice. Le Congo de Brazzaville, le Rwanda, la République démocratique du Congo sont les derniers. Hormis le Niger de Mamadou Tandja et le Burkina Faso de Blaise Compaoré, où les tentatives se sont soldées par des échecs cuisants pour les modificateurs qui ont dû quitter le pouvoir par la petite porte, Mamadou Tandja en prison et Blaise Compaoré en fuite, l'initiative est presque toujours un succès, avec la garantie derrière de la réélection du prince au scrutin qui suit. À la presse et à l'opinion internationale qui s'émeuvent de ces tripatouillages intempestifs des textes fondamentaux qui empêchent l'alternance démocratique, la réponse est à chaque fois la même. La modification de la Constitution est un acte légal dont les mécanismes sont inscrits dans les textes mêmes de la Constitution. Autre réponse toute faite, la limitation des mandats et l'alternance ne sont pas forcément des gages de démocratie, ce que bien sûr dénoncent les oppositions. Peut-on raisonnablement considérer que ces entorses aux règles sont sans conséquence pour le jeu démocratique? Comment imaginer une alternance dans ce cas? La limitation des mandats est-elle un gage de bonne gouvernance? Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui accueille ce dimanche plusieurs invités disséminés dans quelques capitales africaines. D'abord, monsieur Yves Kissombe, le porte-parole du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti au pouvoir en RDC. Il est en direct de Kinshasa. Bonjour, monsieur Kissombe.
Bonjour, Alain Foucault.
Second invité du débat africain, monsieur Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint chargé de la politique et porte-parole de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est également en direct de Kinshasa. Bonjour, monsieur Tshibala.
Bonjour.
En direct cette fois-ci de Kigali, monsieur Albert Roudatimbouroua, qui est journaliste et analyste politique. Bonjour, monsieur Roudatimbouroua.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Alors, nous devions avoir sur ce plateau plusieurs autres invités en direct cette fois-ci de Brazzaville. D'abord, monsieur Guy-Romain Kimfuncia, le porte-parole du FROCAD, le Front Républicain pour le Respect de l'Ordre Constitutionnel et l'Alternance Démocratique, qui représente l'opposition là-bas. Il devait être en direct de Brazzaville, mais pour des raisons techniques, nous ne l'avons pas encore. Et puis, nous déplorons le fait que le parti au pouvoir n'ait pas souhaité participer à cette émission où il avait, c'est sûr, des choses à dire. On espère que la prochaine fois, il sera présent. Alors nous allons démarrer d'abord par une question que tout le monde se pose et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Comment expliquer ces modifications intempestives de constitution? Est-ce parce que on a affaire à des hommes qui sont irremplaçables, à des hommes providentiels sans lesquels le pays sombrerait? J'ai envie de poser cette question d'abord à celui qui est à Kigali, monsieur Roudatimbouroua.
Je crois que de toute façon chaque situation est différente et qu'elle a une toile de fond qui est chaque fois particulière. Donc l'histoire du Congo d'un côté du fleuve n'est pas la même histoire que celle de l'autre côté. Et au Rwanda aussi. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a tout juste 20 ans, mais démarre de quelque chose de pratiquement inédit. Ça veut dire le génocide a fait qu'il fallait réfléchir très bien comment, après un cataclysme comme ça qui a déchiqueté toute la société et le tissu de la société, comment reconstruire, il fallait être innovateur.
Oui, mais dans le même temps, quand on dit ça, 20 ans, ce n'est pas hier, et puis il n'y a pas qu'une seule personne pour sauver cette société-là. Quand vous dites ça, on a l'impression que sans le président Paul Kagame, le Rwanda sombrerait et qu'il faut absolument qu'il soit là pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, comme on a pu entendre ça et là.
Non, ça c'est parce qu'on tire vite une caricature, mais là, justement, on est arrivé à premièrement, c'est vrai que depuis 1994, on considère Kagame comme l'homme fort, mais en réalité, il n'a pris les rênes de la présidence qu'à partir de 2000. Et
on sait très bien que celui qui était avant était une paille.
Non, pas du tout, je crois justement. Non, mais c'est parce que, je veux dire, c'est simple de faire un saut, mais il y a moyen d'analyser. Je reconnais que tout le monde, même les Rwandais y compris, reconnaissaient Kagame comme l'homme fort depuis 1994, mais Au moment où il n'était pas président, il n'était pas président. Donc, lui, il avait d'autres responsabilités.
Très honnêtement, vous savez que c'est lui qui menait le jeu.
Ce que je veux dire, mener le jeu, ça ne veut rien dire. Lequel est sur quel échiquier, parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui est certain, c'est qu'il a ramené la sécurité, ce qu'il a ramené de l'ordre dans le pays. Mais le pays ne s'est pas spécialement développé entre 1994 et 2000. Or, ce que les Rwandais ont constaté, c'est qu'au moment où cet homme-là a pris les rênes de la présidence, premièrement, il a fait son style à lui de gestion, que vous avez certainement dû entendre parler, qu'il gère pratiquement le pays avec un business plan, avec un conseil d'administration et tout ça, etc. Ce style-là. Mais ce que les Rwandais, c'est qu'ils ont vu depuis 2000 à 2015, en tout cas, que leur vie a changé d'une façon incroyable. Et il y a peu d'endroits sur le continent qui ont vu ce changement. Et le pays n'a jamais
sombré. Ce que vous êtes en train de dire, Albert, c'est que Kagame a sauvé le pays, il faut le garder aux affaires jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, c'est ça?
Non, j'explique le phénomène qui s'est produit. À partir de ce moment-là, en 2000, quand les Rwandais ont voté la Constitution qui mettait une limite de dans les mandats, après 15 ans, je veux dire, leur maturité politique aussi a évolué et se disent, mais attendez, si cet homme est encore capable, si ce n'est rien que pour les textes qu'on devrait s'en débarrasser maintenant, si on peut encore le garder même un mandat en plus, faisons-le.
Oui, mais dans le cas actuel, il n'y a plus de limitation de mandat. On va parler de la limitation des mandats ensuite. Je reviens à vous dans un petit moment, Albert. J'ai envie de poser la même question à Yves Kissombé, qui fait partie du PPRD, où on s'apprête également à modifier la Constitution pour donner encore une opportunité au président Joseph Kabila de poursuivre. Il est là depuis le 2001. Est-ce qu'il est l'homme qu'il fallait, l'homme qu'on ne peut pas remplacer, M. Kissombé?
Lui-même vous dirait, Joseph Kabila, qu'il n'est pas irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, mm-hmm, à l'AFOCA. J'aimerais souligner quelques particularités de la RDC en la matière.
D'abord, on vient d'en écouter sur le Rwanda. Alors on va écouter celle des RDC. Allons-y.
Tout à fait. D'abord, je note que pour l'ensemble de la région de l'Afrique centrale, il y a des similitudes en ce qui concerne un élan de démocratisation, une histoire générale pour ces pays d'une démocratie pas beaucoup avancée sur les 20 ou 30 dernières années, mais dans l'ensemble, on note quand même des avancées significatives, mais avec des particularités. Ce que je note pour la RDC, contrairement aux exemples que vous avez pu citer, tout en respectant chaque pays, mais au Congo-Kinshasa, le pouvoir en place n'a jamais évoqué l'éventualité d'un changement de constitution ou de la suppression, de la limitation des mandats présidentiels.
Oui, pas officiellement, mais on a écouté quelques-uns en parler depuis quelques temps. Hein. On savait très bien que ça viendrait. C'était un secret polichinelle.
À titre personnel, certains se sont engagés, que ce soit au PPRD ou au niveau de la plateforme de Joseph Kabila, mais au niveau de la majorité présidentielle comme plateforme au pouvoir, jamais une option pareille n'a été officiellement levée. Donc,
qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Que c'est contre le gré du président qu'il n'en veut pas?
Non, le président de la République a eu à plusieurs reprises à rappeler qu'il n'a jamais été question dans une quelconque réunion d'envisager de changer la Constitution, de violer la Constitution ou de chercher à ce qu'il se pérennise indéfiniment au pouvoir. Cela n'a jamais été envisagé.
Mais monsieur Kissombé, vous savez que même dans les autres pays, personne ne l'a dit jusqu'à ce qu'il décide un matin qu'il va y avoir un référendum. Chacun se défend toujours de toucher à la Constitution jusqu'au moment opportun.
Non, mais très objectivement, rien de spécial. Je crois qu'au Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, vous venez de voir la suite d'une chronique annoncée, en quelque sorte, au Congo-Brazza. On nous a fait suivre le dialogue qui a eu lieu, qui a abouti à notamment comme résolution le projet de révision de la Constitution. Et donc, au Congo-Kinshasa, le parti auquel j'appartiens, au nom de qui je parle ce soir, aujourd'hui, n'a proposé que des modifications strictement techniques, je dirais, liées au fonctionnement des provinces, à l'élection des députés provinciaux notamment, rien en ce qui concerne les dispositions verrouillées par la Constitution.
Mais très honnêtement, la finalité,
le nombre de mandats.
La finalité est la même, non, monsieur?
Mais où en sommes-nous en RDC, à l'avocat? Nous en sommes à une année qui commence, où la fin du mandat présidentiel va avoir lieu. Nous sommes dans un contexte où le processus électoral a du plomb dans l'aile, puisque nous avons énormément de problèmes à le faire décoller. Et pour cela, le président Kabila a fait appel à tous les Congolais pour que l'on puisse, ensemble, autour de la table, mettre toutes ces questions sur la table précisément et lever des options pour la poursuite du processus démocratique dans notre pays et des efforts de développement qu'il faut poursuivre.
Alors, voilà où nous en sommes. Je ne suis pas sûr que ce soit la même lecture que fait M. Tshibala, qui est à Kinshasa également et qui est dans le même paysage politique.
Effectivement. Puis Alain Foucault, moi je voudrais d'abord dire que la leçon que nous avons tirée des combats menés par d'autres peuples sur d'autres continents, c'est que quand les démocrates n'arrivent pas au pouvoir, il n'y a pas raffermissement, il n'y a pas consolidation de la démocratie. Pour qu'il y ait raffermissement, consolidation de la démocratie dans un pays, il faut que les démocrates, les véritables démocrates, ceux qui sont convaincus de valeur de la démocratie, de la République, accèdent aux responsabilités. Je crois que tous les problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique centrale, c'est que la plupart des dirigeants qui sont au pouvoir ne sont pas des démocrates convaincus. Voilà pourquoi un principe important comme celui de l'alternance au pouvoir est foulé aux pieds et à plusieurs reprises, il y a tentative de réviser la Constitution pour monopoliser, se maintenir au pouvoir.
Mais à l'instant que M. Kisombe disait, nous on ne modifie pas la Constitution pour rester au pouvoir.
Non, mais M. Kisombe doit savoir qu'il y a, deux ans, un homme clé, un homme du PKR et du président Kabila avait tenté de lancer l'idée de modifier la Constitution. C'est devant le rejet général, unanime de la population, qu'il a fait un bec et qu'aujourd'hui ils comprennent qu'il n'est pas possible de réviser la Constitution sans soulever une vague de protestations et de soulèvements de la population. Donc pour dire que l'alternance doit être un principe sacré, il faut que ceux qui sont au pouvoir acceptent l'alternance au pouvoir, le changement, parce qu'une bonne démocratie, c'est une majorité et qui gouverne sous la critique constructive de l'opposition et sous le contrôle de l'électorat. Et donc, il faut qu'il y ait une véritable alternance au pouvoir entre les forces politiques. Donc, pour nous,
on va parler de l'alternance. On va parler de l'alternance, mais vous comprenez le principe de la modification de la Constitution sur place?
Non. Nous sommes contre toute modification qui aurait pour origine juste la volonté de monopoliser et de s'éterniser au pouvoir. Nous sommes contre une telle modification. La modification ne pourrait intervenir que lorsque le besoin s'en fait sentir et au niveau de l'ensemble de la population, donc de l'ensemble du peuple. Mais une modification pour les conforts personnels, pour juste s'éterniser au pouvoir, c'est une modification à combattre, une modification qui n'a pas de sens.
Alors, j'ai envie de poser la question de savoir, que pensez-vous de la modification intervenue au Rwanda, par exemple? Est-ce qu'elle se justifie, comme à l'instant on entendait M. Rouda Timbourwa, qui disait qu'elle se justifie parce qu'il y a une bonne gestion et qu'il y a un homme, on va dire, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça revient à la même chose, qu'il y a un homme providentiel aux affaires, il faut qu'il continue. Quelle est votre réaction à cela?
Monsieur Foucault, je crois que le président Barack Obama l'a dit au Ghana, nous avons besoin des institutions fortes, on n'a pas besoin d'hommes forts. Il n'y a pas d'homme providentiel. C'est justement le régime de démocratie qui permet à un pays de se développer, d'assurer sa stabilité et sa paix. Une modification comme celle qui est intervenue au Rwanda, à notre yeux, c'est tout simplement un non-sens, tout simplement une provocation. Parce que quelle que soit l'intelligence, quel que soit le dévouement d'un homme à sa patrie, il ne peut pas s'éterniser au pouvoir comme essaie de le faire M. Kagame. Violer la Constitution, violer la limitation des mandats, c'est tout simplement une anarchie, c'est tout simplement une confiscation du pouvoir. Et pour nous, démocrates congolais, nous, démocrates de l'UDPS, qui nous sommes battus dans ce pays pour que la démocratie s'installe chez nous, nous condamnons cette modification. Nous condamnons cette forme de confiscation et de personnalisation du pouvoir.
J'ai envie de poser la même question à M. Kisombe. Que pensez-vous de cette modification de la Constitution au Rwanda? Vous la comprenez?
Vraiment, la tentation de vous dire que moi, je respecte le peuple rwandais dans les choix qui sont les siens. Je veux faire à ce peuple le respect de considérer que le référendum qui a eu lieu a été sincère. Et donc, l'idéal démocratique, je suis d'accord avec les éléments évoqués par M. Tshibala, l'alternance, elle est inscrite dans la constitution de la République démocratique du Congo aussi. C'est un principe démocratique, c'est la respiration de la démocratie.
Mais on va parler du principe de l'alternance et de la limitation des mandats dans la seconde partie. D'accord. Mais là, concrètement, vous comprenez donc ce qui se passe au Rwanda.
Je ne peux pas porter un jugement de valeur sur les options politiques prise par le Rwanda, le peuple rwandais.
Je suppose que vous allez dire la même chose de Brazzaville.
Oui, mais tout à fait, parce que, vous savez, nous sommes des États souverains, nous sommes des peuples libres, souverains, qui ont, et c'est un principe...
Oui, mais dans le même temps, vous êtes un homme libre, vous pouvez donner votre point de vue sur la question. À l'instant, monsieur...
Mais non, mais moi, je vous parle au nom... Mais monsieur Foucault, je vous parle au nom du... Premier parti de la République démocratique du Congo. Donc je
très bien.
Peux pas
mais alors je vais me tourner vers un journaliste. Me tourner vers un journaliste qui est Albert Oudatsimbourwa. Quand vous regardez cette modification de la Constitution en RDC, est-ce que vous pouvez la comparer à celle qui se passe chez vous? Est-ce que vous la comprenez, cette modification? Pour ne parler que de la RDC, on parlera de Brazzaville plus tard.
Oui, mais je tiens quand même à rectifier quelque chose, parce que je crois que vous le présentez mal, mais ce qui est intéressant dans ces discussions, justement, parce qu'on se parle de loin et peut-être qu'on partage les expériences de là où nous sommes, c'est que, comme l'a dit M. Kisombe, c'est que quand même au Rwanda, c'est la population qui l'a demandé. Ça veut dire qu'il y a eu une pétition de 3,7 millions. Et vous savez, on ne va pas mettre un fusil derrière la tempe de 3,7 millions de personnes sans que ça fasse des remous. On aurait déjà, s'il y avait eu un réel problème, une pression dans le Rwanda sur la population, les gens auraient manifesté.
Ils sont quelques-uns à penser qu'il y a eu des pressions.
Oui, mais écoutez, on voudrait le dire, mais il faut montrer les faits, les vrais effets, on verrait des réfugiés, on verrait des morts, on verrait de la violence, on verrait, il y aurait des traces. Mais de voir qu'on ne voit rien et que les gens ont été votés et qu'il y a eu un scrutin qui est sorti, qui est connu, essayons d'accepter que ce soit possible en Afrique. Et le pourquoi, j'essaie de l'expliquer, parce que les Rwandais ont vu le bénéfice de cela.
D'accord, à cette question,
Une dernière chose avant que j'arrive, parce que je sais que l'alternance va être dans l'autre partie, mais il y a aussi quand même à dire qu'au Rwanda, de toute façon, je dis, il y a un grand parti qui est de toute façon de loin plus important que les autres. Donc, l'alternance aurait été à l'intérieur même de ce parti-là.
Mais ma question, vous n'allez pas y répondre avant. Je veux dire, que pensez-vous des modifications?
Je reviens à la question, tout à fait. De la façon dont M. Kisombe l'explique, je crois qu'il y a une démarche sage du fait de vouloir au moins avoir. L'idée, c'était que maintenant, il y aurait eu éventuellement la première alternance paisible après les mandats de Joseph Kabila à la tête de son parti. Mais aujourd'hui...
Vous avez bien dit de son parti.
Enfin, de son parti qui en plus est une coalition aussi. Mm-hmm. Et donc, éventuellement, mais donc c'est un moment charnière qui est très important. Et s'il y a une volonté de mettre en place peut-être des structures qu'ils auraient déjà dû commencer avant.
Oui, c'est ça la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. Il y aura toujours des soupçons sur l'envie.
Mais le fait de vouloir au moins associer tout le monde là-dedans, dans un dialogue pour y trouver, c'est louable. Maintenant...
On va en parler dans la deuxième partie de cette émission, puisque nous arrivons au terme de cette première partie du débat africain. Nous parlerons d'alternance dans la seconde partie et de la limitation des mandats. Est-ce des gages de bonne gouvernance, de démocratie? Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
Le concours du... Le débat africain. Alain Foucault.
Il est finalement le seul à ramer à contre-courant dans ce paysage présidentiel subsaharien. Le chef de l'État Macky Sall, qui a soumis au Conseil constitutionnel une réforme réduisant son mandat en cours de 7 à 5 ans, apparaît un peu comme un ovni dans cet environnement où la pratique est de faire sauter le verrou de la limitation des mandats pour rester indéfiniment au pouvoir. Le but, dit-il, est de montrer qu'en Afrique, on est capable de donner la leçon de que le pouvoir n'est pas une fin en soi. Il semble bien isolé puisque dans le même temps, dans au moins 3 pays, on utilise tous les subterfuges, tous les artifices imaginables pour tripatouiller les constitutions dans le seul but de s'accrocher au fauteuil. Le débat là-bas est plutôt celui de savoir si la limitation des mandats est un gage de bonne gouvernance et de démocratie. C'est aussi le thème de notre débat ce dimanche. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de cette émission qui accueille plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord, Monsieur Yves Kissombé, porte-parole du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie en République démocratique du Congo, le parti au pouvoir en fait. Il est en direct de Kinshasa. Également à Kinshasa, Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi. Et puis en direct de Kigali, Albert Rudatsimburwa, qui est journaliste et analyste politique au Rwanda. Nous devions également avoir en ligne, en direct de Brazzaville, un autre pays où la réforme constitutionnelle est en cours, Monsieur Guy-Romain Kimfuncia, le porte-parole du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Mais il a curieusement disparu depuis tout à l'heure. Il ne répond plus au téléphone. Mais on s'est renseigné, il ne lui est rien arrivé. Il ne veut peut-être plus évoquer ce sujet. Pourtant, il était très enthousiaste jusqu'à tout à l'heure pour donner son point de vue sur la question. Tout comme le camp présidentiel qui a décliné l'offre au dernier moment. Alors pour ceux qui sont avec nous, peut-on considérer, Monsieur Bruno Tshibala, la limitation des mandats comme un élément important de la bonne marche de la démocratie?
Assurément, Monsieur Alain Foucault. La limitation des mandats, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'utile et de nécessaire. On ne peut pas diriger un pays indéfiniment. Il faut une limitation des mandats. C'est un gage de bonne gouvernance, un gage de bon fonctionnement de la démocratie. Et donc, nous pensons, nous, qu'un homme ne peut pas rester indéfiniment au pouvoir. Il faut définir la durée du mandat. Deux, comme c'est le cas chez nous, c'est une bonne chose pour permettre à quelqu'un qui a un programme de l'exécuter. S'il ne peut pas l'exécuter lors du premier mandat, il l'exécute et le termine lors du deuxième mandat et il se retire, il va faire ses mémoires. Et donc le principe de limitation, c'est un principe qui garantit la bonne gouvernance, qui garantit l'alternance et qui est donc une chose à encourager pour l'ensemble des démocraties africaines.
Oui, dans le même temps, on vous dit, on a vu l'alternance dans certains pays sans que cela fasse avancer forcément la démocratie.
Vous savez, M. Foucault, la démocratie, c'est un combat de longue haleine. Rome n'a pas été construite en un jour. Il faut se battre, il faut corriger, il faut améliorer. Mais en maintenant le principe de la limitation, on va arriver à avoir une démocratie qui fonctionne à merveille. Donc, le problème de la limitation, pour nous, c'est un problème essentiel. Il faut limiter le mandat, permettre à quelqu'un de réaliser son programme en un temps bien défini, bien déterminé par la Constitution, et partir, permettre à d'autres forces, à d'autres leaders de venir aux responsabilités et de réaliser leur programme par ce jeu d'alternance. C'est comme ça qu'un pays peut se développer. Mmh. Voilà pourquoi nous, à l'UDPS, vous venez de rappeler le fait que notre président ait été Premier ministre, mais vous savez que s'il n'a pas exercé le pouvoir qui lui avait été confié par le peuple à la conférence, c'est parce qu'il avait affaire à un dictateur qui veut s'éterniser au pouvoir.
Qui était le président Mobutu Sese Seko Kukubwendu Wa Zabanga. Alors, Albert Rudatsimburwa, que répondez-vous à cette réflexion de Tshibala qui dit « il faut absolument l'alternance ». Dans le cas du Rwanda, on a fait sauter ce verrou de la limitation des mandats.
Non, pas du tout. Il y a une exception pour cette constitution, enfin la précédente, puisqu'elle vient d'être modifiée, qui permettait un mandat extra, mais dans la nouvelle constitution, la limitation est restée à deux mandats. Ce qui veut dire que les Rwandais ont quand même dit, on voulait faire une exception parce que nous avons une situation exceptionnelle, mais le principe, nous continuons à y croire qu'il faut avoir en tout cas une limitation de mandat. Ceci dit, la raison pourquoi tout ça a été fait, c'est parce que les alternances en général, etc., ce n'est pas une garantie que la bonne gouvernance...
Mais n'est-elle pas nécessaire ? N'est-elle pas nécessaire quand vous êtes resté aussi longtemps aux affaires et que vous n'avez pas pu faire grand-chose ou que vous êtes épuisé, il faut bien à un moment ou à un autre qu'il y ait du sang neuf.
Oui, mais l'alternance, justement, c'est chaque fois... Par exemple, ça fait 21 ans qu'en fait, le FPR est le parti qui a en fait arrêté le génocide, qui a gagné la guerre et qui a construit avec d'autres plus petits partis, en fait, cette société dans laquelle les Rwandais sont aujourd'hui.
C'est dramatique le génocide qu'il y a eu, c'était tout le monde entier s'en est ému, mais on ne peut pas parler que de ça pour la gestion du Rwanda quand même, non ?
Mais non, ce que je veux dire...
Parce qu'à chaque fois, c'est l'argument qui revient, qu'on a arrêté le génocide, c'est nous qui avons arrêté cela. Est-ce que ça donne le droit d'être les seuls à gouverner ?
Je veux dire, même en politique, l'histoire de l'alternance en soi, enfin de la limitation de mandat, c'est quelque chose qui est intéressant pour au moins donner aussi des chances à des moins forts comparés aux plus forts, parce que sinon...
Et apporter du sang neuf, apporter de nouvelles idées.
Oui, bien entendu, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une limitation, je dirais, intellectuelle, parce que au Sénégal, vous savez, vous vous rappelez que M. Watt s'est représenté, mais il n'a pas été élu. Donc, il y a toujours le choix des urnes.
Mais M. Senghor s'est retiré au bout d'un certain temps parce qu'il estimait qu'il fallait laisser la place à d'autres.
Oui, parce qu'il l'avait déjà donné, il l'a fait. Mais ce que je veux dire, le fait qu'on ait quand même donné la possibilité à M. Watt de se présenter, il a été battu par les urnes. Donc, en soi, la limitation n'est pas intellectuellement, je dirais, l'arme absolue. L'arme absolue, ça devrait être les urnes, ça devrait être la population qui choisit. Mais en même temps...
Oui, mais on sait très bien que ceux qui sont aux affaires s'arrangent toujours ou presque toujours pour remporter les élections. Si on se limite aux urnes, certains resteront indéfiniment au pouvoir.
Tout à fait. C'est pour ça que je disais que c'est au moins la limitation de mandat donne quelques chances aussi à des gens qui n'auraient pas pu, parce qu'ils sont moins forts, au moins accès à quelques gages de garantie. Mais encore une fois, est-ce que ça donne le développement à la population ? Or, en Afrique, la question est en train de... que le Rwanda est en train de poser, et c'est ça peut-être le problème.
C'est-à-dire le Rwanda est en train de nous montrer, d'après ce que vous dites, que l'alternance n'est pas forcément gage de développement, et que la durée d'un président peut être un avantage parce qu'il apporte le développement s'il a des projets.
Ça, ce serait l'exceptionnalité de ce personnage-là, de ce personnage politique-là, qui est le président Paul Kagame. Même si ce n'avait pas été Paul Kagame, et qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui a une moins bonne performance, mais le modèle politique que le parti...
Mais pour le savoir, il faut essayer quelqu'un d'autre aussi, hein.
Oui, mais pour l'instant, je veux dire, les Rwandais n'ont pas envie de jouer là-dessus, de dire on va essayer quelqu'un d'autre, alors qu'on vient de voir 15 ans de performance incroyable. Les gens disent, mais si on peut rajouter 7 ans, au moins rajouter, c'est toujours ça de prix. Donc je veux dire, c'est comme si au Rwanda, les gens n'ont pas... Le temps est très important. Donc, à un autre cycle, si ça peut leur apporter un développement qui pourrait être comparable à ce qu'ils
viennent de vivre,
c'est un gain pour la société rwandaise.
Alors, Monsieur Kisombe, vous partagez ce point de vue. Pour vous, la limitation de mandat, ce n'est pas la clé, ce n'est pas très très important, surtout si on a un chef éclairé.
Le chef éclairé, c'est déjà un peu péjoratif, mais fondamentalement, on peut dire qu'effectivement, la limitation des mandats n'est pas en soi un gage de réussite démocratique pour la société et pour le pays, ni d'avancée économique et sociale. Donc c'est un mécanisme qui aide la respiration de la démocratie, certainement, et qui est lié à l'histoire d'un pays. En République démocratique du Congo, il va de soi qu'une durée longue, vraiment, d'un pouvoir, d'un régime, est quelque chose qui a laissé des traces dans la société, dans la mémoire collective. On veut essayer autre chose. C'est là l'évolution historique politique de notre pays. On en est là, après une longue transition qui a commencé dans les années 90, la guerre, etc. On a
oui, parce que c'est quand même un peu surprenant. C'est quand même un peu surprenant que ceux qui sont partis du maquis, ceux qui ont été dans l'opposition pendant aussi longtemps, qui reprochaient à Mobutu justement sa longévité, puissent dire à un moment donné, l'alternance, c'est pas forcément la chose urgente.
Mais c'est de l'intoxication, à la Foucault. On veut faire croire à cela, mais l'idéal de ceux qui ont mis un terme à la dictature ne s'est pas perdu. C'est un idéal démocratique. On croit à l'alternance dans ce pays. C'est pour ça que je vous dis que le parti du président Joseph Kabila n'a jamais proposé la modification des articles intangibles dans la Constitution, ni de changement de Constitution, de modification de la Constitution. Tout ça, ce sont des procès d'intention. Alors, il y a des tendances dans un parti politique, dans une famille politique. Il y en a qui pensent, un peu à l'image de ce qu'on peut voir ailleurs, que nous sommes à la croisée des chemins et que l'évolution de la démocratie et des efforts de développement dans notre pays, avec les résultats que nous constatons, font que le président Joseph Kabila a un rôle historique à continuer à jouer à la tête de l'État. Il y en a qui le croient, il y en a qui pensent que le principe de l'alternance doit primer sur tout le reste. Mais le débat est là, au niveau du président Kabila lui-même et de sa famille politique en tant que structure, en tant que force. Il n'y a jamais eu, jusqu'à ce jour, d'option levée dans le sens d'un changement de la Constitution. Et donc, voyez ce que les mois à venir vont nous livrer comme élément à l'avocat et qui feront la spécificité du Congo. Parce qu'à ce stade, c'est des procès d'intention. Et moi, ce que je vous dis, je ne vous dis pas que la volonté du peuple congolais est déjà à ce stade inscrite, figée. Parce qu'il faut respecter, le souverain primaire, qu'est le citoyen dans chaque pays. Au Rwanda, j'ose espérer, je présume que le peuple s'est exprimé en toute liberté. Et donc je ne peux pas, comme mon compatriote Tshibala, porter un jugement de valeur sur ce qui s'est fait au Rwanda ou sur ce qui s'est fait au Congo-Brazza. Je dis simplement que dans notre pays, on croit à l'alternance parce que Mobutu a passé 32 ans à la tête du pays et que ça a été un bilan sur le plan économique et social catastrophique. Et donc on pense que le développement est aussi
Pensez-vous, monsieur Kisombe, qu'on peut rester longtemps aux affaires et réaliser quelque chose de fort, continuer d'être efficace, continuer d'être bon, de construire son pays, de lui apporter le développement, comme le disait à l'instant monsieur Rouda Timbouroua?
Si l'on considère la démocratie comme une valeur universelle, avec des spécificités partout, on peut noter que l'alternance n'est pas une condition sine qua non des performances de gouvernance dans un pays. Je ne pense pas que Franklin Roosevelt et les 4 mandats qui passaient à la tête du gouvernement américain ont été du fait de cette longévité et de non-alternance par rapport à la limitation qui en a suivi, a été un facteur déstabilisateur ou contre-productif pour les États-Unis à cette époque-là. Donc vous voyez, et je ne pense pas non plus, parce qu'on parle d'alternance, mais l'alternance est un principe relatif dans une démocratie. Après la Seconde Guerre mondiale, moi j'ai vécu longtemps en Belgique par exemple, ou même en France, Mitterrand est arrivé au pouvoir après en apportant un changement historique, n'est-ce pas? Parce que traditionnellement, c'était la droite qui était au pouvoir. Donc l'alternance, elle n'est pas liée qu'au personnage qui prend la tête de l'État, mais c'est aussi les courants politiques.
Oui, mais vous savez très bien, que dans les États africains, ça s'appuie essentiellement sur l'homme fort dont parlait le président Obama.
Mais je pense aussi qu'il y a des tendances idéologiques différentes. Vous n'allez pas me dire que la tendance de Mobutu était celle de Laurent Désiré Kabila, qui croyait quand même à une société plus dirigiste. Donc moi, ce que je veux dire très concrètement, c'est que l'alternance est un principe relatif, déjà, en termes d'efficacité démocratique pour les efforts de développement. Ça, c'est une chose. Au Congo, ça apprend dans notre pays, Congo-Kinshasa, ça a une valeur historique fondamentale, que je ne peux pas nier à cause, je vous l'ai dit, du passé mobutiste de la Deuxième République. Ça, c'est certain. Et donc...
C'est justement pour ça que la plupart des gens se disent, ceux qui ont décrié Mobutu, comment peuvent-ils aujourd'hui chercher à garder encore un peu plus longtemps le pouvoir? Ils sont là depuis 2001, il est peut-être venu le moment de céder la place.
Mais justement, ils font un mauvais procès, puisque je vous dis qu'à ce stade, le parti du président Kabila, sa famille politique plus large, n'a même pas encore eu à se prononcer sur la question. Et donc, à ce stade... La constitution de la RDC, qui limite à deux le mandat du président de la République, reste d'application à ce stade.
Mais on sait que dans quelques temps, ça va changer. Monsieur Tshibala, que répondez-vous à cela?
Monsieur Foucault, je suis très heureux que vous nous ayez invité à parler de la limitation des mandats que je considère comme une nécessité absolue. Vous vous rappelez, dans les années 80, le sage africain Amadou Ampateba, il avait utilisé une métaphore très intéressante en disant que le pouvoir africain ressemblait à un verre d'alcool. Au premier verre, on est joyeux, comme un oignon. Au deuxième verre, on se sent si fort comme si on avait mangé du lion. Mais au troisième verre, on est comme une bête qui ne peut faire que des bestialités. Lorsqu'un pouvoir n'est pas limité, lorsqu'un pouvoir est indéfini, on finit par aboutir au troisième verre d'Amadou Ampateba. C'est ce que nous sommes en train de dire, que la limitation est très, très, très importante. Je dis à M. Kisombe qu'il n'est pas admissible, il est impensable aujourd'hui. Ceux qui sont venus se joindre à nous pour mettre fin au long règne de Mobutu tentent de préconiser la non-limitation du mandat, il faut limiter le mandat. C'est cela le gage de la démocratie. C'est l'alternance qui permet le changement de politique, le changement de style, le développement d'un pays. Lorsqu'on compare les républicains et les démocrates qui se succèdent au pouvoir aux États-Unis, on voit la différence de style et cela permet à l'Amérique d'avancer. Donc, je veux dire qu'il faut nécessairement limiter le pouvoir, les mandats en Afrique pour ne pas tomber au troisième verre d'alcool d'Amadou Ampateba.
Bien. Vous avez entendu ça, M. Rouda Timbouroua? Vous partagez ce point de vue de toute façon?
Ça me fait revenir plutôt même sur une déclaration qu'il a fait tout à l'heure. Cette fameuse déclaration d'Obama que j'admire beaucoup, mais pour certaines choses, surtout quand ça regarde l'Afrique, quelquefois je trouve très sloganesque, parce que Les grandes institutions...
Vous admirez Obama quand il s'occupe d'Amérique, pas quand il part d'Afrique.
Non, parce que sur l'administration d'Obama, à part que j'admire quand même son intervention sur le Burundi, mais sur l'administration d'Obama, on a laissé...
On a pique au passage.
On a laissé... En fait, l'Afrique a surtout à des activistes qui pensent vraiment avec un nombrilisme plutôt occidental. Mais je reviens à cette phrase. Il n'y a pas eu de grande institution dans l'histoire de notre humanité sans grand homme. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on a besoin à la longue de grandes institutions, c'est vrai, mais elles doivent, pour y arriver, souvent ce sont des hommes qui ont fait la différence.
Pour vous, il faut des grands hommes en Afrique, des hommes forts.
Non, c'est pas qu'il faut, je veux dire, mais quand il y en a, il ne faut pas cracher dessus. Mais je suis d'accord avec la plupart des critiques qu'on a sur le changement de constitution en Afrique. Je ne suis pas dupe non plus. Je ne vais pas prendre à cause du Rwanda la cause de gens qui veulent s'éterniser absolument au pouvoir. Je suis complètement d'accord qu'on a eu trop de scénarios et de là on est conditionné. Et de là c'est pour ça que je dis aussi, écoutez, ce qui passe au Rwanda, je crois qu'il y a lieu de jeter un coup d'œil un peu plus près.
Mais les Congolais aussi disent qu'il faut jeter un coup d'œil à leur exception. Sur la question, chacun trouve une exception chez lui. Nous déplorons tout simplement le fait que les Congolais de Brazzaville n'aient pas pu être là pour donner leur point de vue sur cette question qui les concerne aussi, puisque là-bas, il y a eu une modification de la Constitution, ou plutôt un changement de Constitution. On reviendra certainement sur cette question qui passionne dans un débat africain. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Léonore Krenik, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Géopolitique, le débat.